Voilà, vous êtes en direct, je suis en direct, nous sommes en direct. Très bien. Donc aujourd'hui, 10 mars, dans la série 12 portraits philosophiques du Christ, que l'on peut suivre en présentiel restreint, mais aussi en distanciel, grâce à cet appareil qui a bien voulu marcher, enfin. Voilà, le 10 mars, nous sommes au quatrième portrait. Nous avons donc déjà vu trois portraits, n'est-ce pas? On a commencé par Pascal, on a eu Spinoza, on a eu Rousseau, et maintenant nous allons avoir trois Allemands. Le quatrième portrait, c'est Emmanuel Kant. Vous avez donc sa photo quelque part là, sur la feuille de route. Emmanuel Kant, 1724-1804. Ensuite, nous aurons Lessing. Lessing est un dramaturge qui n'a pas vécu très longtemps, qui est né un peu après Kant, mais qui est mort bien avant lui. Et puis, nous aurons Hegel, qui est un grand philosophe bien connu, 1770-1831. À propos de Lessing, donc c'est la prochaine fois que nous l'aurons, dramaturge, nous allons lire quelques extraits de L'éducation du genre humain et Nathan le Sage, une pièce qu'il a écrite, et d'ailleurs que j'ai vue une fois ici à la Monnaie à Bruxelles, Nathan le Sage. Mais donc aujourd'hui, c'est avec Kant que nous allons avoir affaire. Sur votre feuille de route, vous voyez donc qu'il y a un premier paragraphe. Le christianisme, religion objectivement naturelle, quoique subjectivement révélée. Objet, sujet, c'est très important pour Kant. Donc il a fait ce qu'on appelle le tournant copernicien. Avant, c'était le sujet qui se soumettait à l'objet, si on veut, hein, qui tournait autour de l'objet pour savoir ce qu'était l'objet. Et avec Kant, eh bien, on a fait ce tournant copernicien, qui est comme l'héliocentrisme. Bon, eh bien, c'est le sujet connaissant qui est le socle de la connaissance. Et les objets, je dirais, gravitent autour du sujet et sont seconds par rapport à l'instrument de connaissance qu'est le sujet. Donc c'est pourquoi il parle de objectivement et subjectivement. L'essai sur le mal radical, donc c'est la première partie de la religion dans les limites de la raison pure, de la seule raison, la religion dans les limites de la seule raison. Voici une traduction toute nouvelle, hein, de 2016, je crois, oui. Vous voyez donc qu'on s'intéresse encore à ce volume. Il avait été traduit par Gibelin en 68, révisé en 83. Et donc c'est un volume qui a été publié par Kant pour la première fois en 1793. 1793, donc il a déjà écrit la première critique, première édition, deuxième édition. Et il a écrit la critique de la raison pratique et la critique du jugement. Et le voilà donc avec... La religion dans les limites de la simple raison. Kant est un penseur des limites. Des limites. Donc il ne veut pas filer dans l'idéalisme, il ne veut pas filer dans les choses qu'on ne peut pas vérifier. Il y a l'entendement qui est l'instrument de la science, mais il y a aussi la raison. La raison est supérieure à l'entendement, si on veut. Et la raison, elle, a une vue beaucoup plus panoramique de ce qui est. Mais au niveau de la connaissance, cette raison, je ne vais pas entrer dans les détails, mais doit se fier à l'entendement, d'une certaine manière. Tandis qu'en morale, dans la conduite, la raison pratique est extrêmement importante. Donc les grandes questions que se pose Kant, c'est « Que puis-je savoir ?»« Was kann ich wissen ?»« Que dois-je faire ?»« Was soll ich tun ?» Et « Que m'est-il permis d'espérer ?» Was darf ich hoffen? Donc, la raison pratique, c'est vraiment rationnel, la raison pratique. Et elle donne un impératif catégorique à la conscience. Cet impératif catégorique, eh bien, c'est simplement la voix de la conscience qui dit, ben, tu dois faire le bien, tu ne peux pas faire le mal. Du sollst, tu dois. Cette voix de la conscience est vraiment la charnière, le pivot de toute la philosophie de Kant au niveau pratique, au niveau moral et aussi, comme on va le voir, au niveau religieux. Donc notre raison pratique nous édicte, mais en fait c'est une voix divine en nous, hein, nous édicte eh bien, l'impératif catégorique, donc le commandement absolu avec lequel on ne transige pas, tu dois faire le bien. Kant suppose que tout le monde a cette conscience en lui et entend cette voix, tu dois faire le bien. L'essai sur le mal radical, donc on va l'étudier. Ensuite, il y aura la présentation du Christ par rapport justement à toute cette philosophie morale. Et enfin, l'Église et son rôle social. Alors, le christianisme, religion objectivement naturelle, quoique subjectivement révélée. La religion naturelle, donc, c'est une religion de la raison. Une religion que tout homme raisonnable est capable d'atteindre. Eh bien, le christianisme, finalement, n'est rien d'autre que la religion que la raison de tout homme, la raison universelle, peut atteindre. Car cette religion naturelle, donc, elle dérive du pur concept pratique de la raison. Mais dans l'histoire est apparu le christianisme. Le christianisme avec, il y a d'abord eu bien sûr le judaïsme, il y a eu le christianisme, Jésus est apparu. Et donc l'historicité de la religion chrétienne, est-ce qu'elle est nécessaire ? Puisque tout homme universellement a une conscience morale qui lui dit ce qui est bon et ce qui est mauvais, et donc peut construire une religion naturelle tout à fait excellente à partir de sa seule raison pratique. Pourquoi faut-il qu'il y ait une histoire du judaïsme et puis du christianisme pour nous apprendre quelque chose de plus ? Qu'est-ce qu'on peut nous apprendre de plus que la raison ? Voilà, ça c'est la question. On pourrait même dire d'une certaine manière que l'historicité du christianisme constitue comme un obstacle au triomphe de la pure foi religieuse. On verra comment. Ça peut être une aide, mais ça peut être un obstacle. Il faudra bien discerner. Car en effet, sans nul recours aux Écritures, à la Bible, à l'histoire du peuple élu, à l'histoire de Jésus, chacun peut acquérir la parfaite certitude de ce qui peut le rendre agréable à Dieu. Voilà, quel est le but de la religion ? Vivre d'une manière qui nous rend agréable à Dieu. Donc pour lui, bien sûr, la raison pratique, c'est peut atteindre l'idée d'un Dieu créateur, d'un Dieu personnel, d'un Dieu moral, évidemment, le Dieu qui est le bien, qui veut le bien. Eh bien, donc, chacun peut acquérir par lui-même la parfaite certitude de ce qui peut le rendre agréable à Dieu. Un être agréable à Dieu, un être humain agréable à Dieu, ça c'est un grand concept donc de Kant, Wohlgefällig, c'est un mot un peu ancien, je crois. Lessing va aussi utiliser le mot agréable à Dieu, mais avec angenehm, ce qui est plus courant, en tout cas plus moderne. Voilà. Comment faisons-nous pour être agréable à Dieu, notre Créateur ? Eh bien, on peut le savoir par la simple raison. Et pourtant, c'est là, disons-le, ce que Kant nous apporte. Et pourtant, jusqu'à l'entrée en scène de Jésus, jamais la raison n'avait pris conscience de ses propres exigences pratiques. La conscience peut savoir, mais dans le concret, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, pourquoi ? Parce qu'il y a toutes sortes d'obstacles. Eh bien, on va voir le principal obstacle, c'est le mal radical. Le mal radical qui est une espèce de transposition du péché originel, mais attention, c'est vraiment pas le péché originel tel qu'on l'entend d'habitude. Donc voilà, ça c'est incroyable, C'est Jésus qui nous révèle ce que notre raison pouvait découvrir par elle-même. Mais elle pouvait, mais elle n'en était pas capable finalement, dans l'histoire, dans le concret, elle n'en était pas capable. Et c'est Jésus qui nous fait prendre conscience des exigences ultimes et de la beauté ultime, finalement, du bien et du mal, de la conscience morale. Donc c'est pourquoi c'est une religion, le christianisme est une religion objectivement naturelle. Quelqu'un qui ne connaît pas le Christ pourrait très bien, en principe, connaître le christianisme, mais dans sa pratique morale surtout, bien sûr. Mais c'est Jésus qui nous fait découvrir, qui fait l'ultime pas, qui achève cette recherche, qui était une recherche sincère, mais pas toujours si sincère que ça finalement, de la raison pratique. L'essai sur le mal radical. Donc, comme je vous ai dit, c'est la première partie de ce ouvrage, La religion à l'intérieur des limites de la simple raison. C'est ce que j'avais mis comme comme image pour le début de ce YouTube. La première partie s'intitule « De l'inhérence du mauvais principe à côté du bon ou du mal radical dans la nature humaine ». Vous avez ça sur votre feuille de route. Donc le titre de cette première partie, c'est « De l'inhérence ». L'inhérence, c'est quoi l'inhérence? Eh bien, « Ein Wohnung » en allemand, le mauvais principe habite à côté du bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce mauvais principe est un mal radical dans la nature humaine. Donc, ce sont deux principes. Il y a en l'homme deux principes. Le principe bon et le principe mauvais. Ils sont tous les deux principes. Ça veut dire que, au même titre, ils se rapportent tous deux à l'usage entier de la liberté. Ils touchent de la même manière la liberté humaine, dans la totalité de son exercice. Cependant, le mauvais principe habite à côté du bon. C'est comme si le bon avait la maison et l'autre est venu un peu squatter à côté, quoi. Donc il n'est pas vraiment le maître. Il habite à côté, mais il habite bien à côté. Ein Wohnung, il a quand même pénétré un peu dedans. Et pourtant, c'est le bon principe qui domine à l'intérieur de la conscience humaine. Le bon principe n'est pas corrompu, n'est pas annihilé par le mauvais principe qui se trouve pourtant dans l'homme de manière radicale, ce qui signifie bien la profondeur de cette inhérence, de cet enracinement du mauvais principe à l'intérieur de la conscience humaine. Une autre manière de distinguer ces deux principes, eh bien, c'est de dire que le bon principe est une disposition, Anlage, une disposition originelle au bien. C'est ce qui est indiqué aussi sur votre feuille de route, une disposition originelle au bien, tandis que le mauvais principe est un penchant, Hank, au mal. Donc la disposition stable, principale, je dirais, établie, c'est bien sûr le bon principe, qui est vraiment une disposition originelle, mais tout à coup elle schiffe un petit peu, tout à coup ça part un petit peu en travers. Pourquoi ? Eh bien parce que s'il y a ce mauvais principe qui est un penchant, qui essaie de faire pencher la tour, si on veut. Alors ce penchant, attention, ce ne sont pas les tendances sensibles, ce n'est pas l'inclination sensible, par exemple la gourmandise, etc., la sensualité, non, ça c'est une Neigung. Et la Neigung, eh bien elle n'est ni bonne ni mauvaise. Vous avez faim, vous avez envie de manger, ben ça c'est pas une inclination au mal. Et ainsi de suite. L'inclination au mal, c'est vraiment moral. C'est moral. Bien sûr, de toutes nos tendances sensibles, nous pouvons faire quelque chose de bien ou de mal. Mais ça dépend si on la met dans la ligne du bon principe ou dans la ligne du mauvais principe. Donc, ce n'est pas l'inclination sensible, le penchant au mal. Le penchant au mal, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui relève vraiment de la liberté, de la décision de la liberté par rapport à l'impératif catégorique qui est édicté par la conscience morale, par la raison pratique, qui est tout à fait claire en tout homme. Alors, il y a trois éléments à la destinée humaine, l'animalité, l'humanité et la personnalité. On va définir cela, ça nous permettra de mieux comprendre la construction, je dirais, de Kant. L'animalité, eh bien, c'est l'amour de soi physique, qui est triple. Conservation de soi par l'alimentation et la défense, conservation de l'espèce par l'instinct sexuel et association dans la tendance au groupement. Voilà ce qu'il appelle l'animalité, cette partie animale de l'homme, qui n'est de nouveau ni bonne ni mauvaise, qui est comme ça, voilà. Amour de soi physique pour se conserver comme individu, comme espèce, pour vivre en groupe. L'humanité, elle est déjà quelque chose de plus raisonnable, elle comporte un amour de soi jugé par la raison. Un amour de soi jugé par la raison, qui compare et discerne les différences objectives entre les hommes. C'est un peu plus la raison théorique ici. L'humanité se développe dans une volonté de se ménager une valeur raisonnable aux yeux des autres. Ça, c'est l'humanité. Tout homme veut être humain, veut participer à l'humanité, veut être digne de l'humanité. Eh bien, surtout d'abord par son intelligence. Il veut briller devant les autres, au milieu des autres, etc. Mais la personnalité, C'est encore plus que cette humanité. C'est l'être moral de l'homme. L'être moral de l'homme. Pas seulement l'être intelligent, théorique, mais l'être pratique. Et là, ce n'est pas seulement, disons, l'intelligence, la capacité de comprendre, d'exposer, mais c'est la responsabilité de ce que l'on fait. La personnalité comporte une aptitude à connaître la loi morale et à ressentir à son égard un respect. Une personne, une vraie personne, eh bien, c'est quelqu'un qui sait ce qu'est le bien et le mal, hein, et qui aime le bien, et qui choisit de faire le bien, la plupart du temps, plutôt que le mal. On pourrait être un humain, ça veut dire quelqu'un de très intelligent et de très compétent, etc., et d'avoir peu de personnalité au sens moral du terme. Hein. Et personne, donc, c'est assez quand même intéressant, hein, la personne est vraiment définie par sa responsabilité morale, sa capacité de comprendre où est le bien et le mal, et de soumettre tout le reste à cette loi morale. Donc la personnalité, c'est quelqu'un aussi qui soumet son animalité et son humanité, eh bien, à sa responsabilité morale. L'élément moral en l'homme se saisit d'emblée comme supérieur aux deux autres. Ce n'est pas seulement l'intelligence qui fait ma valeur, hein, ma valeur suprême est dans ma moralité. Ce n'est pas mon animalité qui fait ma valeur, mais elle fait aussi une partie de ma valeur, mais dans la mesure où elle est soumise, hein, à l'humanité, elle-même soumise à la personnalité. Alors la disposition au bien, eh bien justement, c'est la force qui tend à combiner ces trois éléments dans leur ordre propre, à soumettre l'animalité à l'humanité et l'humanité à la personnalité. C'est donc la disposition au bien, c'est la volonté de subordonner constamment chacun des éléments aux éléments supérieurs. Mais bien sûr, l'animalité et l'humanité ne sont pas écartées, au contraire, ils fournissent nombre de mobiles pour l'action. Énormément de mobiles de l'action viennent de l'animalité, on a envie de courir, on a envie de faire des choses, etc., on a envie d'être intelligent, etc. Bon, tout ça, ce sont des mobiles pour l'action. Mais tous ces mobiles, qui ne sont ni bons ni mauvais, doivent s'ordonner, hein, à la personnalité, à la responsabilité morale. Doivent donc s'activer conditionnellement, pas pour eux-mêmes, mais sous l'autorité de la loi morale. La disposition au bien, alors ici c'est très important, appartient à la nature de la liberté humaine de manière essentielle. Elle fait partie nécessairement de toute liberté. Elle est constitutive de l'homme, cette disposition au bien. Elle est constitutive de l'homme. Si vous avez un homme dont vous dites « oui, mais il n'a pas de conscience morale », ben ce n'est pas un homme. Voilà. Il faut, hein, que cette conscience morale soit bien présente parce qu'elle constitue le cœur, hein, la moelle de la personnalité de l'homme. Elle est innée, elle est constitutive, elle annonce une origine divine. Voilà la formule de Kant. Elle annonce une origine divine. Le penchant mal, lui, il a trois degrés. Il a trois degrés, la fragilité, l'impureté et la méchanceté. Voilà, trois degrés dans cette tendance, ce penchant mal. Donc, on est bien d'accord que si on ne considère l'homme que théoriquement, eh bien, il est bon par nature. Si on le considère théoriquement. Donc, il est d'accord avec Rousseau pour la théorie, mais pour la pratique, pas. Pour la pratique, il y a un sérieux penchant au mal. Et donc, ben, il n'est plus d'accord avec Rousseau. Si on passe à la considération pratique de l'homme, eh bien, on constate, c'est un constat malheureux, mais c'est un constat qu'on ne peut éviter, eh bien, l'homme se définit aussi par une tendance à faire le mal, hein, un désir, quelque chose qui le pousse à faire le mal, à ne pas obéir spontanément, directement, entièrement, à cet impératif catégorique, à cette loi morale. D'où est-ce que ça vient ? Eh bien, on le constate. C'est un constat. Et donc, on peut dire que ce penchant au mal n'appartient pas nécessairement à l'homme, mais accidentellement, et qu'il n'est donc pas nécessaire, mais il est foncièrement là quand même. Il appartient lui aussi à la nature de la liberté humaine. Il lui appartient, mais comme un accident, non pas comme son essence. Alors, il faudra Essayer de savoir d'où il vient ce penchant au mal. Hein. Le penchant au mal, d'abord essayons de le définir, c'est la petite velléité de s'écarter éventuellement du bien que l'on fait parce que c'est le bien, sans discuter. Dès que vous avez en vous la moindre petite hésitation devant le devoir qui vous est proposé, l'action bonne qui vous est proposée, la moindre petite hésitation, eh bien ça vient du penchant au mal. Voilà, vous hésitez. Pourquoi est-ce que vous hésitez? Ben, si vous étiez parfaitement moral, il n'y aurait aucune hésitation. Vous voyez le bien, vous voyez le mal, vous choisissez le bien. La moindre hésitation signifie cette présence du penchant au mal. L'idée d'inverser un petit peu l'ordre de l'animalité, de l'humanité, de la personnalité, de mélanger un peu ses motivations. Dès que vous avez ça en tête, eh bien, se révèle en vous ce penchant au mal. L'évidence du bien, eh bien, tout à coup, s'obscurcit, devient une interrogation. Quand on dit, oui, mais enfin, je fais quand même le bien, je fais toujours, enfin, presque toujours le bien, c'est le presque qui est de trop là. Hein. Si vous dites, je fais toujours le bien, je ferai toujours le bien, j'ai toujours fait le bien, eh bien là, vous obéissez, bien sûr, à la disposition, à l'ag, du bon principe. Mais si vous dites, bon, ben, à l'occasion, vous savez, il y a quand même des cas où, franchement, ben, là, voilà, vous êtes occupé à faillir par rapport au principe. Vous ne faites pas le bien pour le seul motif que ça vous est clairement indiqué comme étant le bien. Et si vous dites, oui, mais enfin, on peut quand même discuter où est le bien, moi je trouve qu'il faudrait définir ce bien, un petit peu expliquer et tout ça, voilà, ce n'est plus clair à votre esprit. Il y a soi-disant des cas différents, il y a soi-disant des nuances, et bien tout ça, c'est déjà pour lui une atteinte à l'obéissance parfaite au principe du bien. Mais il y a quand même 3 degrés dans ce penchant mal. La fragilité. La fragilité prend quand même la loi pour seul motif de l'action. Eh bien écoutez, nous sommes sans doute ici tous avec la ferme intention de faire le bien. Eh bien tant mieux, nous avons cette ferme intention. Mais malheureusement, cette ferme intention n'est pas toujours efficace. Nous le regrettons. Nous voulons l'éviter. On ne veut rien d'autre que la loi. Mais on ne la veut pas assez, et donc parfois, presque à contre son gré, il nous arrive de faire... on le regrette, mais voilà, ça c'est la fragilité. L'impureté consiste là à prendre la loi pour motif principal, mais pas unique. Principal quand même, mais pas unique. On lui ajoute d'autres motifs, soi-disant pour aider le bon principe à trouver quand même son énergie, on ajoute un autre principe. Un autre principe, une autre motivation un peu moins honorable. Par exemple, je fais telle aumône, je fais l'aumône, je fais quand même le bien, mais je le fais d'autant plus volontiers que je sais qu'on la prendra. Si on me voit faire l'aumône, ça m'aide à faire l'aumône. Ah bon, ça vous aide à faire l'aumône? Ben oui, enfin pas trop, mais quand même un petit peu. Bon, donc si je suis dans le comité d'honneur de machin et que tout le monde sait que j'ai fait telle aumône, eh bien, ça m'aide à la faire. Ah, voilà, là, il y a une petite impureté dans la disposition au bien. Bon, la fragilité, c'est sans doute le cas de tout le monde. L'impureté, ça dépend, plus ou moins aussi. La méchanceté accepte carrément de subordonner la loi morale à d'autres motivations provenant de l'humanité, l'orgueil par exemple, ou l'animalité, la sensualité. Éventuellement, la loi devient carrément seconde. Dans la fragilité, elle est unique en principe, mais pas en la pratique. Dans l'impureté, elle est principale, mais elle n'arrive pas à être vraiment unique. Et dans la méchanceté, c'est carrément l'abandon de la primauté de la loi morale. On est clair et net, il y a quand même des choses au niveau de l'animalité et de l'humanité qui prévalent sur la loi morale. Cette méchanceté, Kant estime qu'au sens rigoureux, l'homme ne peut être foncièrement méchant. Vouloir admettre le mal comme mal serait diabolique, dit-il. Serait diabolique. Mais c'est une limite qui existe, que nous connaissons, que parfois nous attribuons aux autres, ou peut-être à nous-mêmes, je ne sais pas. Voilà. Le penchant au mal ne supprime pas ni même ne corrompt la raison. La raison continue parfaitement à voir où est le bien, où est le mal. Mais ce penchant au mal rend difficile l'exécution du bien. Kant s'oppose donc à la thèse protestante de la corruption radicale. Il se rapproche de Rousseau, de l'humanisme optimiste de l'Aufklärung, hein, qui dit quand même l'homme est bon par nature. Ben lui dit aussi l'homme est bon par nature théoriquement. Alors vous savez que quand il a publié ce livre, il a étonné, scandalisé, choqué beaucoup de ses contemporains, même de philosophes. Goethe, par exemple, disait « Mais enfin, c'est quand même incroyable, ce Vulcan, qu'est-ce qu'il nous raconte là avec ce mal radical ?» Mais je dis, non, ça ne va pas, ça. Hein. Et d'autres aussi trouvaient ça choquant. Eh bien, Kant a eu ce courage. Hein, je pense comme ça, ben je le dis. Hein. Je suis sincère jusqu'au bout avec ma pensée. Alors peut-être que ça vous choque, eh bien ça vous choque, voilà, mais réfléchissez bien en vous-même pourquoi ça vous choque. Hein. Est-ce que si vous étiez parfaitement sincère, vous ne seriez pas en partie peut-être d'accord avec moi aussi, dit-il. Voilà, en tout cas, lui qui était respecté, etc., qui avait quand même une grande aura, ben il a déçu certains de ses admirateurs. Mais ça n'a pas empêché de continuer dans la même ligne. Kant, évidemment, hein, c'est un homme qui tient le cap. Quelle est l'origine de ce penchant au mal? Eh bien, c'est une acquisition originaire incompréhensible. C'est une acquisition originaire incompréhensible. Unbegreiflich. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, dire que c'est incompréhensible, ben, c'est un peu facile. Eh bien, il faut l'admettre, hein, il y a des limites à la raison. Il y a des limites à la raison. La raison ne sait pas tout. Elle constate, mais elle ne le sait pas. Alors, pour expliquer ce mal radical, est-ce qu'on va aller en Genèse 2 et 3 avec le péché originel, Adam et Ève? Non, il vaut mieux aller à 2 Samuel 12, 7, cet homme, c'est toi. Hein? C'est le prophète Nathan qui dit à David, qui vient de confesser son péché, hein, il a plutôt expliqué la parabole hein, où il condamne quelqu'un qui fait le mal, et Nathan lui dit, eh bien cet homme, c'est toi. Eh bien voilà. Voilà hein, le texte qu'il faut lire pour comprendre d'où vient eh bien, ce penchant mal. Il est en nous. Aussi loin que nous allions chercher dans notre propre histoire, dit-il, nous n'avons jamais connu un état d'intégrité. Nous, pas le voisin, pas à cause du voisin, nous, en nous-mêmes. Qui peut dire qu'il a jamais fait le bien avec aucune idée du mal, avec aucune idée que c'était arraché un petit peu sur une tendance au mal, que ça exigeait un effort. Tout le bien qu'on a fait, c'était toujours un peu un effort contre une tendance à faire le contraire. Cette faute, donc, c'est chacun qui l'a commise, quand ben, on n'en sait rien, de manière immémoriale, peut-être même intemporelle, on ne sait pas. Mais c'est une acquisition personnelle, hein, il ne faut pas accuser les autres. Et il dit là, de nouveau, examinez votre conscience, hein, examinez votre conscience. Quand vous êtes devant un dilemme, vais-je faire le bien ou vais-je faire le mal? Est-ce que c'est Adam qui vient vous dire quelque chose? Ou est-ce que c'est vous qui tout à coup vous dites, ben non, je vais faire le bien. Ou bien au contraire, je vais faire le bien, mais. Ben voilà, c'est pas Adam, hein, c'est vous. Voilà. Au fond, tout acte moral important, eh bien, vous allez le faire comme si vous étiez au paradis terrestre. Comme si vous veniez de l'état d'innocence et qu'on vous propose, eh bien, de faire une chose ou l'autre. Et il n'y a personne qui vous tire plutôt à gauche qu'à droite. Alors, on dit, j'ai des habitudes et tout ça. Ben oui, mais si on remonte de fil en aiguille, on se rend compte que ces habitudes, ben, c'est vous qui les avez prises et que vous voulez les conserver. Parce que vous pouvez toujours changer. Ben, vous pouvez toujours changer. Et il suffit de le vouloir. Alors, il suffit de le vouloir, c'est la conversion. Alors ça, c'est le point 6, la conversion. Mais elle est tout aussi incompréhensible que eh bien, l'origine du mal. Alors, je vais me convertir. Ben oui, ça demande un immense effort. Hein. Et allez-vous le faire? Eh bien, ben, on n'en sait rien. C'est le mystère de votre liberté. Et si vous le faites et que votre voisin ne le fait pas, ou l'inverse, il n'y a pas d'explication. Un cas est aussi incompréhensible que l'autre. Ça relève de quelque chose qui est au-delà de la raison, qui dépasse les limites de la raison. C'est le mystère de la spontanéité de la liberté. Voilà. Alors, voilà l'influence de ce penchant au mal, aussi loin que je puisse aller dans le passé, quels que soient les actes que je fais, je me rencontre toujours avec cette tendance, mais je peux toujours lui dire non, il suffit que je le veuille. Et alors, avec la grâce, avec l'aide de Dieu, ou avec le désaide d'Adam ou du diable, bon, c'est votre affaire. Et c'est vous qui décidez. Il a une forte conscience donc, de la responsabilité mystérieuse de la liberté. La conversion, comme je vais l'expliquer, est tout aussi incompréhensible que la volonté de faire le mal. Le relèvement du mal au bien, est quand même la base de toute notre vie. Il n'y a personne ici, nulle part, sans doute, sauf celui qui est vraiment méchant, mais est-ce que ça existe ? Il n'y a personne ici qui décide une fois pour toutes qu'il ne fera que le mal. Tout le monde dit « demain je ferai mieux ». Tout le monde espère qu'il va s'améliorer. Tout le monde regrette ses péchés et espère qu'il va aller plus loin. C'est la base constante de notre effort quotidien. Nous croyons à la conversion. Nous voudrions nous convertir. Le malheur, c'est que ça exige vraiment une révolution intérieure. Et que l'hypocrisie est toujours possible. Au lieu de me convertir, je vais juste faire un peu semblant d'être meilleur. Je vais un peu cacher mes défauts. Je vais un peu atténuer mes fautes et mes péchés, je vais diminuer, mais la vraie conversion, ça, c'est une vraie régénération. C'est une nouvelle naissance. Ça rappelle un peu la nouvelle naissance de Spinoza, qui lui était plus intellectuel. Mais c'est aussi à partir de l'évangile de Jean qu'il parle comme ça. D'ailleurs, par parenthèse, Kant était un lecteur assidu de la Bible. Assidu. Il n'était pas un pratiquant religieux, non ? Mais il était un lecteur assidu de la Bible, il a fait beaucoup de commentaires, par exemple, il aime beaucoup Job, et il n'aime pas du tout le sacrifice d'Abraham, il dit ça c'est un faux miracle, un faux Dieu, enfin, là il n'aurait pas fallu écrire ça, bon. Mais Job c'est très bien, Job il a des beaux commentaires sur Job, ben oui, vraiment l'intégrité morale, envers et contre tout. Voilà la vraie conversion, qu'est-ce que c'est ? C'est difficile à définir, mais nous nous trouvons constamment devant le défi de l'opérer. De nous renouveler maintenant, hic et nunc, de laisser tout notre passé de mauvaises actions derrière pour maintenant ne faire plus que le bien. Nous renouveler entièrement. Et dès qu'on a pris cette décision, on se pose la question de la persévérance. Est-ce qu'on va persévérer ? Pas dans l'hypocrisie, dans la vraie conversion. Voilà. Est-ce que Dieu, qui nous regarde du haut du ciel, considère nos petites conversions comme une vraie conversion ? Est-ce que des petites conversions, ça existe ? Ou est-ce que c'est pas de nouveau tergiversations, des procrastinations, on remet à plus tard des velléités ? Alors, qui est-ce qui peut savoir s'il s'est vraiment converti ? S'il est vraiment dans le trip de la vraie conversion, d'abord, il y a une grande souffrance de l'homme qui se convertit. C'est un arrachement. Si vous ne sentez pas un peu de souffrance là, c'est que la conversion soft, ça n'existe pas beaucoup. Il faut vraiment que ce soit un effort et ça vous fera souffrir. On en reparlera d'ailleurs avec le Christ. Et alors, vous avez le ferme propos d'être persévérant, mais vous n'en savez rien. J'ai le ferme propos d'être persévérant, et je souffre parce que j'ai renoncé à toutes sortes de choses, je souffre, je suis persévérant, mais serai-je persévérant toujours ? C'est ça la question. Eh bien, le signe peut-être, que nous sommes dans une vraie conversion, c'est que nous avons l'espérance, la vraie espérance, comme nous pourrions dire, nous, la vertu théologale, mais la vraie espérance que nous allons y arriver, peut-être avec la grâce de Dieu, mais surtout par nos propres forces, évidemment. Hein. Il croit un peu à la grâce de Dieu, mais enfin, il est quand même assez pélagien. Hein. Il faut quand même faire son effort. Hein. La grâce, bon... Eh bien, vous savez que pour lui, l'incompréhensibilité même de cette loi morale en nous et de notre disposition constante à la suivre annonce une origine divine qui doit agir sur notre âme jusqu'à l'enthousiasme. Quand vous lisez, c'est un très beau passage, le passage sur la conversion, quand vous lisez ce passage, eh bien, en effet, vous sentez son enthousiasme. Hein. Il veut vraiment... nous faire comprendre que la liberté, c'est pas simple, c'est pas facile, mais c'est extrêmement beau, extrêmement puissant. Alors, le Christ maintenant. Voilà, j'ai déjà parlé 35 minutes, presque, le Christ. Eh bien, le Christ, il faut le voir dans ce contexte moral. Comme je vous ai déjà dit, le Christ est venu sur Terre et il a forcé l'histoire à reconnaître des principes qui pourtant étaient naturels et étaient universels. A été découvrable par la raison pure, pratique, mais que la raison n'avait jamais voulu vraiment pousser à bout, parce qu'il y a ce penchant au mal sans doute, hein, mais que la raison elle-même est perturbée par ce penchant au mal. Voilà, dans la deuxième partie de cet ouvrage, donc La religion dans les limites de la simple raison, Kant considère la personne du maître qui enseigna la seule religion valable pour tous les mondes. Il s'efforce de rendre compte du rôle du Christ. Kant évite de nommer Jésus. C'est très rare de nommer Jésus, mais il nomme le Christ, il nomme le Fils. Mais surtout, il le désigne comme la personnification du bon principe. Voilà, le Christ est la personnification du bon principe. Descendu du ciel dans l'humanité. Ben, pourquoi pas, hein. Descendu du ciel dans l'humanité. Voilà. L'idée personnifiée du bon principe. Tous nous avons un archétype de l'homme parfaitement agréable à Dieu. D'une certaine manière, c'est notre constitution morale de savoir ce qu'est un homme parfait que nous voudrions être. Ça fait partie de notre constitution morale. Eh bien, on n'a pas besoin de Jésus pour avoir ça. On l'a en nous. Et on l'a en nous pourquoi ? Ben parce que Dieu nous l'a mis en nous. Il a imprimé en nous cette image de l'homme parfait. Eh bien, cet homme parfait, tout à coup, il apparaît dans l'histoire. Et c'est Jésus, c'est le Christ. Et ce Christ, eh bien, non seulement il accomplit tout devoir humain, parfaitement, intégralement, il l'enseigne. Et sa doctrine est cohérente avec son action, extrêmement rare, si pas impossible. Et il est même prêt à se charger de toutes les souffrances, y compris en faveur de ses ennemis, pour maintenir eh bien, cette disposition au bien entièrement intégrale. Mais en fait, cette idée de l'homme parfaitement agréable à Dieu, ben, nous l'avions tous dans notre tête, dans notre conscience, avant que Jésus apparaisse. Alors, nous reconnaissons Jésus justement à cause de notre idée. C'est parce que nous avons cette Urbild, cet archétype de l'homme parfait, que nous reconnaissons que Jésus est l'homme parfait. Mais ce n'est pas Jésus qui nous révèle ce qu'est l'homme parfait. Nous le savons tous. Mais nous reconnaissons Jésus comme l'homme parfait. Comme l'homme parfaitement agréable, wohlgefällig, hein, à Dieu. Mais en fait, cette idée... elle s'atteste en elle-même, on n'a pas besoin d'un exemple pour la connaître. On n'a pas besoin de l'expérience. Alors tout à coup, l'expérience est là. Bon, elle est là, tant mieux. Tant mieux ou tant pis, on va voir. Hein. Est-ce que ça va vraiment nous aider ? Est-ce que ça va vraiment nous aider ? Et comment est-ce que ça va nous aider ? Est-ce qu'il va nous servir de modèle ? Est-ce qu'il va nous servir de modèle ? Voilà, en tout cas, le Fils éternel... hein, du Père, là, au fond, pour Kant, ce n'est rien d'autre que l'idée de l'homme parfait, qui, disent les chrétiens, est descendu du ciel pour prendre chair, bon, soit, hein, mais cet archétype, si on veut, que Dieu a imprimé dans le cœur de chaque homme, tout à coup, eh bien, nous le connaissons et nous le reconnaissons en Jésus, mais ce n'est pas Jésus qui nous le révèle totalement. Mais ce qu'il nous dit, eh bien, nous aide à aller jusqu'au bout de cette idée de l'archétype que nous avons en nous-mêmes et que le penchant au mal nous faisait toujours un petit peu diminuer, si on veut, dans ses exigences. Alors que ce soit maintenant le Fils de Dieu qui descend du ciel, ça reste une hypothèse. Bon, ça reste une hypothèse. Mais une hypothèse, est-ce qu'elle est vraiment intéressante, cette hypothèse ? D'abord, il est bien clair que nous n'avons, en morale, pas besoin d'exemple. Nous n'avons pas besoin d'exemple. Ni les bons, ni les mauvais. Nous avons l'ourbilt en nous, l'archétype en nous. Les bons exemples peuvent nous aider, d'accord, mais il y a des tas de gens qui ont des bons exemples autour d'eux qui n'en font rien, et des tas de gens qui ont des mauvais exemples autour d'eux et qui ne les suivent pas. Donc, l'exemple, l'expérience sensible n'est pas vraiment ce qui est décisif en morale. Mais quand même, en Jésus, nous avons un modèle, un exemple, oui, une expérience, mais il a quand même accompli une révolution morale qui produit dans le monde un bien immense. Alors, d'une certaine manière, on n'a pas besoin d'exemple, et cet exemple, quand même, eh bien, produit une révolution morale. Est-ce que Jésus est engendré surnaturellement ? Est-ce qu'il est homme ou est-ce qu'il est Dieu ? En tout cas, il doit être homme. Parce que si c'est un ange, ça ne sert à rien de nous dire « vous les hommes, imitez les anges », ça ne sert à rien. Il faut qu'il soit homme. Il doit en tout cas être homme, vraiment homme. Mais s'il est homme et Dieu, ce n'est pas tellement un avantage. Ce n'est pas tellement un avantage pour nous. S'il est Dieu, comme modèle, il ne sert plus à grand-chose. C'est comme de dire « l'ange fait le bien, fait le bien ». Si moi j'étais Dieu, je ferais le bien aussi. Okay. Donnez-moi une volonté humano-divine et je ferais toujours le bien. Donc, Jésus comme exemple, comme homme, il peut éventuellement servir d'exemple ou peut rafraîchir ou raviver le prototype, l'archétype de la morale en moi. Mais comme homme-Dieu, c'est plutôt un inconvénient, selon Kant. C'est plutôt un inconvénient. Il prend toujours évidemment le point de vue strictement moral. Pas le point de vue mystique, etc. Oui, mais Jésus nous a sauvés, nous a justifiés, etc., par ses souffrances, il nous sauve de nos péchés. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Par parenthèse, eh bien, Kant est très sensible aux souffrances du Christ. On a vu, par exemple, qu'avec Rousseau, la passion, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Non, Kant est vraiment très attentif à cela, ses souffrances physiques, mais surtout psychique et rationnel, raisonnable, si on veut, de quelqu'un qui dit la vérité et qui est réfuté par la persécution. Il est très sensible à cela, il en parle souvent, peut-être que dans le texte que vous avez lu là, que je vous ai donné, vous l'avez remarqué. Donc, Jésus nous sauve. Jésus nous sauve, ça veut dire quoi ? Ben, de toute façon, il ne peut pas nous sauver si nous, on n'a pas envie d'abandonner le mal, Il ne sauve que si vraiment on décide d'abandonner le bien. La pure intention ne suffit pas de dire « Tiens, Jésus me sauve, donc je peux continuer à faire le mal. » Bon, il ne va pas me sauver, évidemment. Jésus me sauve si je fais cette conversion. Il peut m'y aider, peut-être. Mais surtout, il y a la question de la persévérance. Je me convertis, mais est-ce que je vais persévérer dans cette conversion ? Et donc, bien sûr, c'est un raisonnement que beaucoup se font. Si je ne vais pas persévérer, on ne va pas la faire, Ça ne sert à rien de se convertir aujourd'hui parce que dans 2 ans, je vais chuter. Donc, tant pis, on continue, vogue la galère comme ça marche maintenant. Et si on n'a pas le propos de la persévérance qui nous est inconnu, on n'a pas envie de se convertir. Mais justement, le Christ peut nous donner l'espérance éventuelle. Le Christ a souffert pour nous. Mais non, c'est quand même le coupable seul qui doit supporter le châtiment, pas un innocent. Alors les souffrances du Christ, à quoi ça sert ? Ben en tout cas, ça ne sert pas à remplacer les miennes. Les miennes qui sont celles de ma conversion. Et alors là, il insiste, et c'est quand même intéressant, il insiste pour dire que le vieil homme qui se convertit doit beaucoup souffrir, il doit être crucifié, comme dit saint Paul, Il doit être crucifié, le vieil homme, pour renaître. Il ne suffit pas de dire « je crois au Christ ». La foi au Christ peut m'aider. L'idée d'une imputation extrinsèque, c'était Luther, etc., peut éventuellement nous aider un petit peu, mais attention, hein, il ne va pas faire tout le travail à notre place. Hein. Il faut vraiment se convertir. Alors, l'exemple de l'humanité agréable à Dieu. L'apparition du Christ n'a pas détruit le mauvais principe dans le monde. L'Écriture sainte nous raconte, eh bien, de manière un peu imagée, la lutte du bon principe et du mauvais principe. La Bible, dès le début, avec Adam et Ève et tout ça, c'est sous forme d'histoire, quelque chose que la raison peut découvrir par elle-même, la lutte du bien et du mal. Mais là, c'est illustré. Voilà, en bande dessinée, hein, on vous explique ce qu'est la conscience morale. Sous forme d'une histoire. L'histoire n'est pas toujours un avantage, selon Kant. Pour Hegel, ce sera un avantage. Hein. Il intégrera l'histoire dans la raison. Mais pour Kant, bon, il y a une espèce, comme pour Spinoza, d'intemporalité de la vérité, etc., et du bien, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire. Sub specie eternitatis, vous souvenez. Hein. Mais donc, sous forme d'histoire, l'Écriture sainte nous raconte qu'il y a une lutte entre le principe bon et le principe mauvais, et qu'un être malin a vraiment détourné nos premiers ancêtres et qu'il s'est érigé en prince de ce monde. Et donc le royaume de Dieu est mis en échec et nous sommes dans le royaume du mal. Mais ensuite un personnage est apparu, Jésus, d'une innocence parfaite. Par là donc, l'empire du prince de ce monde est mis en péril. Tout le monde faisait le mal. Tout le monde avait ce penchant au mal. Et tout le monde y succombait. De manière totale, à moitié, ou de manière à peine, parce qu'il était dans une fragilité quand même. Mais tout le monde y succombait. Avec Jésus, on a eh bien, quelqu'un qui ne succombe absolument pas, qui affirme le principe du bien, envers et contre tout, et qui, surtout s'il est un homme, eh bien, montre que c'est possible à l'homme. Et que nous pouvons, nous aussi, entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Alors, à proprement parler, le royaume de Satan n'est pas défait, mais quand même, sa suprématie est brisée. Sa puissance est cassée. Quelqu'un a cassé la puissance du principe du mal. Avant, tout le monde y était soumis. Maintenant, eh bien non. Hein. Le diable a eu un adversaire qui l'a vaincu. Dépouillé de son enveloppe un peu mystique, cette représentation vaut pour tous les temps et pour le monde entier. Voilà, il faut un petit peu décanter tout cela, hein, mais ça veut dire qu'il y a moyen de tenir tête au prince de ce monde, parce qu'il y a une brèche qui a été ouverte. Eh bien, prenons la suite du Christ et entrons dans cette brèche pour mettre en échec hein, le royaume du mal et construire le royaume de Dieu. Est-ce que les miracles sont utiles? Les miracles de Jésus sont utiles? Ben Jésus lui-même dit que les miracles sont... ça l'embête. Hein? Jésus dit, vous voulez toujours des signes, vous ne croyez pas, hein? Vous voulez des signes. Eh bien, bon, Jésus lui-même, ça l'embête de faire des miracles. Jean 4, 48. Hein? Vous êtes toujours à la recherche d'un signe. C'est vrai, Jésus le dit. Hein? Eh bien, en effet, bon, en fait, c'est faire preuve d'incrédulité morale que de demander des signes. C'est faire preuve de ne pas croire dans la conscience morale que de dire « s'il y a un miracle, je ferai le bien ». Oui, mais bon, même sans miracle, vous savez bien qu'il faut faire le bien hein, et qu'il faut vous convertir. C'est une preuve d'incrédulité que de croire au miracle ou de demander des miracles, en tout cas de fonder sa foi sur les miracles. La religion chrétienne peut se maintenir dans une beaucoup plus grande pureté en n'ayant que des arguments rationnels, raisonnables, nul besoin de miracles. La résurrection, l'ascension, c'est un peu embêtant, ça évidemment, ce sont des gros miracles là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben d'abord, c'est des miracles qui ne sont pas tellement intéressants, selon lui, parce qu'on va traîner son corps dans l'éternité maintenant. Hein. Bon, lui, il préfère, bon, qu'on parle bien sûr d'une immortalité de l'âme, mais une résurrection du corps, hein, il nous a assez embêtés sur cette terre, et on va encore devoir le traîner là au ciel. Non, non, non. Donc, lui n'a pas fort apprécié, semble-t-il, hein, sa vie dans son corps. Voilà, enfin, il trouvait que ça l'empêchait d'être voilà, vraiment raisonnable, vraiment moral. Donc, voilà. Donc, il diminue un peu cette affaire. dont il ne sait pas trop quoi faire. Alors, la Trinité. Est-ce que Kant croit à la Trinité ? Ben, il a une Trinité réduite aux attributs divins. Il croit en Dieu, Père, Créateur, oui, surtout Créateur aimant, qui veut le bien des hommes. D'ailleurs, la seule raison de créer le monde, pour lui, c'est l'homme, c'est-à-dire créer un être raisonnable. Dieu n'a vraiment aucune motivation pour créer des pierres, pour créer des plantes, pour créer des animaux sans raison. Ce n'est pas un motif de création, ça. Un motif de création, c'est l'homme, qui est raisonnable, et qui peut donc, par l'intelligence, mais surtout par la conscience morale, communier avec lui, avec Dieu, dans la perfection morale. Donc la vraie raison de la création, c'est l'homme. Et donc le Père est celui qui aime d'un amour infini les hommes, dont il souhaite qu'ils soient adéquats au bien qu'il est. Alors le Fils, ben le Fils, c'est au fond l'archétype de l'humanité parfaite. Ben, est-ce que c'est une personne ? Plutôt non. Et le Saint-Esprit, c'est quoi ? Ben, le Saint-Esprit, finalement, c'est la voix de notre conscience morale. C'est Dieu qui parle en nous. Bon, c'est un peu vite dit, mais quand même, l'Esprit Saint est comme le juge qui est constamment en nous pour nous dire où est le bien et de ne pas faire le mal. Le Dieu de Kant a donc un caractère plutôt unitaire que trinitaire. Et donc c'est vrai qu'il vide un peu les dogmes, un peu beaucoup, les dogmes de la Trinité et de l'incarnation, de leur signification chrétienne originelle. Mais il leur donne quand même un sens. Notamment le péché originel, il n'y a pas beaucoup de philosophes, hein, j'en connais pas du tout, hein, qui ont essayé de donner un sens raisonnable au dogme du péché originel, qui est d'ailleurs compliqué aussi pour les théologiens. L'Église et son rôle social. Eh bien voilà, la victoire du bon principe sur terre, c'est l'édification du royaume de Dieu. C'est ce que tous nous voulons faire. Nous avons dans notre conscience que nous allons participer à l'édification du royaume de Dieu. Eh bien, l'Église peut être un véhicule de la foi religieuse qui veut édifier ce royaume de Dieu. L'Église devrait être une cité éthique, sous la législation morale de Dieu. Mais bien sûr, si c'est une cité parfaitement éthique, elle est invisible, hein, on ne la voit pas. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais, malgré tout, une église visible pourrait aider à nous faire tendre vers cette église invisible. On voit là un thème assez luthérien, hein, l'église visible, invisible. Kant lui-même, on le sait, n'était pas à proprement parler membre d'une église. Il avait fait partie d'un mouvement piétiste quand il était jeune. Il avait été éduqué là-dedans. Mais, voilà. Il était donc lecteur de la Bible, comme je vous l'ai dit, lecteur sérieux de la Bible, mais il avait cessé toute pratique religieuse. D'ailleurs, il estime que l'Église visible est une association purement libre, vraiment libre. Si vous voulez entrer dans une Église, vous êtes libre de le faire, mais ce n'est moralement pas obligatoire. Pas obligatoire. Moralement. C'est important, la morale. Voilà. Et d'ailleurs, dans son commentaire d'écriture, comme je vous l'ai dit, eh bien, il a des réflexions assez intéressantes. Il commente longuement Job, qu'il apprécie. Il n'aime pas du tout le sacrifice d'Abraham, qui pour lui, c'est une falsification de je ne sais pas quoi. Hein, il connaît beaucoup de passages de l'Évangile, comme vous l'aurez peut-être remarqué en lisant le texte. L'interprétation correcte de l'écriture exige une connaissance linguistique et historique, mais surtout philosophique. Du principe du bien et du mal. L'Église visible, malheureusement, a des fonctionnaires, des prêtres, la prêtraille, hein, Pfaffentum, qui n'aiment pas du tout, et a aussi des charismatiques et des illuminés, Schwärmerei, hein, les illusionnistes, là, voilà. Hein. Ça, ce sont des malfaiteurs dans l'Église, hein, ceux qui font des rites qui tendent à la superstition et ceux qui remplacent les inspirations, la morale par les inspirations un peu délirantes. Quoi. Voilà, le vrai culte, c'est le culte des cœurs qui consiste en l'observation de tous les vrais devoirs des commandements de Dieu. dire « je suis un bon chrétien, mais je me soustrais à la morale », eh bien, c'est vraiment tout le contraire de ce qu'il faut faire, quoi. C'est la bonne conduite qui est vraiment le contenu, le cœur de la religion. Mais beaucoup, justement, voudraient être religieux, hein, proche de Dieu, agréable à Dieu, mais sauf dans la conduite morale. Sauf dans l'intention morale, là, on a son petit quant à soi. Eh bien, là, c'est complètement à côté. La prière. Est-ce que la prière est utile? Oui, pour nous renforcer dans l'idée du bien. Nous renforcer dans l'idée du bien. Bon, étendre l'Église, faisant des nouveaux membres, faire des missions pour répandre voilà, l'idée morale du bien, ça c'est très bien, mais ce n'est pas moralement obligatoire. La prière d'adoration et la prière d'intercession ne demandent, ne servent pas à grand-chose. Hein. Il faut surtout prier pour faire le bien. Et c'est au fond une espèce d'autosuggestion et d'auto-renforcement de notre principe du bien. Voilà, donc le Dieu ancien est certes un Dieu personnel, un Dieu c'est important, hein, il n'est pas du tout athée, mais sa fonction judicative constitue la voie étroite qui nous relie à lui. Alors c'est pour ça que beaucoup de gens ne le trouvent pas très sympathique, mais il ne faudrait pas que ce rigorisme nous empêche de voir la vérité de ce qu'il dit, hein, parce que je crois quand même qu'il souligne beaucoup de choses que beaucoup de gens ne soulignent pas. Alors le texte que maintenant nous n'avons pas le temps de lire ensemble, en tout cas si on veut s'en tenir à 7h30. Voilà, je crois qu'il illustre bien, hein, différentes choses que je vous ai dites ici. On va peut-être le relire ou en relire des passages dans le débat qui va suivre. Mais donc voilà, hein, pour parcourir rapidement ces pages, vous voyez que j'ai mis des références, hein, bibliques à côté de certains passages, Jean 1, Hébreux 1, Jean 3, Philippiens 2 aussi, l'abaissement, hein, l'abaissement du Fils. Voilà, cet homme qui plaît à Dieu, eh bien, il est l'illustration concrète, historique de l'archétype qui se trouve de toute façon en nous. Nous n'avons pas besoin d'exemple pour faire le bien. Nous devrions le faire sans exemple, mais puisque l'exemple est là, eh bien, tant mieux, mais si cet exemple est l'exemple d'un homme-dieu, ben c'est un exemple qui nous dit que si on n'est pas Dieu, on ne peut pas faire le bien, quoi. Or, nous ne sommes pas Dieu, donc nous trouvons une excuse, là, pour ne pas être rigoureux avec nous-mêmes. Mais, je prends quand même dans la troisième page, donc la troisième page, on dit que l'archétype, ainsi est une incarnation hypostasiée de Dieu, ben, n'est pas tellement un avantage. D'accord, cet homme divin ne pourrait plus être érigé en exemple pour l'homme naturel. C'est la dernière ligne de la page 3 et la première de la page 4. Donc, il s'instaurerait par rapport à l'homme naturel une distance infiniment grande. Dernière ligne de la page 3, première ligne de la page 4. Cet homme divin ne pourrait plus être érigé en exemple pour l'homme naturel. Cet homme naturel dirait ben, qu'on me donne aussi une volonté totalement sainte. Toute tentation du mal sera vouée en moi à échouer d'elle-même. Qu'on me donne la parfaite certitude intérieure qu'après une vie courte sur terre, je dois être appelé à accéder immédiatement à toute la splendeur éternelle du royaume céleste. Ben, j'assumerai avec docilité, hein, avec joie, toutes les souffrances, aussi lourdes qu'elles puissent être. Et ce, jusqu'à la mort la plus déshonorante, dans la persévérance totale, puisque j'aurai devant mes yeux l'issue glorieuse et prochaine. Voilà, donc, assurément, si nous nous représentons cet homme divin, que cet homme divin était de toute éternité en possession effective de cette élévation et de cette béatitude, mais, alors là il y a un petit argument qui vient, mais s'il y a renoncé, si comme homme, il a renoncé à cela, et donc s'il a renoncé à la vision béatifique et s'il a renoncé à voilà, cette volonté parfaitement inébranlable et tout, ah, ça c'est Philippiens 2, hein, lui de condition divine n'a pas réclamé les avantages de la divinité, il s'est fait homme reconnu comme tel, etc. Ah, là il trouve, hein, un nouveau petit argument, si on veut, pour dire que si cet homme a, même Dieu, a renoncé volontairement pour des êtres entièrement indignes, et même pour le bien de ses ennemis, afin de les sauver de la perdition éternelle, une telle pensée ne peut qu'orienter notre esprit à éprouver envers lui admiration, amour et reconnaissance. Mais dans le même temps, l'idée d'une conduite conforme à une règle si parfaite devrait pouvoir aussi nous être représentée pour nous, sans qu'il faille nécessairement nous présenter un exemple. Il revient toujours avec cette idée d'archétype qui est marquée en nous et qui est au fond le Saint-Esprit en nous, la voix de la conscience, la voix de la morale. Voilà, nous arrêtons ici et je vais donc couper la vidéo pour ceux qui nous ont suivis. Je vois qu'il y a une quinzaine de personnes qui ont suivi, voilà, c'est très bien, plus ceux qui sont ici en présentiel, plus ceux qui peuvent encore retourner après sur le lien pour le voir en différé, s'ils l'ont déjà vu ou bien s'ils ont été en présentiel, vous pouvez toujours revenir sur le lien parfois ça sert à réécouter une partie de ce que j'ai dit ou à relire le texte d'une autre manière, etc. Voilà, je salue tout le monde et je vous souhaite une bonne semaine jusqu'à mercredi prochain où nous étudierons un petit peu les cycles. Au revoir.